Octavujan, Mémorandum d'un épicurien. Fragments et notes au crayon. Je m'acagnarde dans Paris, parmi les amours et les ris. Bois Robert. Je sommeillais encore lorsque Babette m'a remis ce matin la longue épître de sa maîtresse. Le soleil filtrait timidement au travers de l'épaisse soie bleue des rideaux, et je berçais avec complaisance ma langueur dans un réveil craintif et caressant. Babette avait les joues fraîches et colorées par les baisers de l'air matinal. Elle semblait accorte et bien heureuse de vivre. L'espièglerie se jouait dans ses narines délicates et nerveuses, tandis que le rire, compagnon de son âge, s'était blotti presque respectueusement aux commissures de ses lèvres humides et roses. Sur le seuil de ma chambre, son pli cacheté à la main, elle n'osait approcher de mon lit. « Qu'est-ce, Babette ? Venez ça. Seriez-vous timide et Maître Jean n'était-il point là pour vous annoncer ?»« Pardonnez, monsieur, mais madame m'a semblé tenir à ce que je vous remisse moi-même cette lettre. Peut-être y a-t-il une réponse et j'ai cru... » La soubrette s'avança de trois pas, rougissante comme une pêche duveteuse en août, et baissant ses longs cils sur l'azur de ses yeux. Je pris paresseusement l'enveloppe parfumée et l'ouvris. Babette alors souleva les tentures pour laisser pénétrer le grand jour. Elle eut un mouvement exquis et se campa comme une page auprès de la fenêtre. Sa légère robe de toile emprisonnait ses larges hanches et modelait sa gorge, tandis que, renversée en bacchante, rose et frissonnante, un bras en l'air, elle retenait les lourds plis du rideau sombre dans ses doigts mignons et filets de petites lingères. Je m'afainéantissais et m'étirais, tout alangouri dans la tiédeur des bras. Des sensations de moite volupté serpentaient lentement dans mon dos. Les oreillers battus et chauds avaient des caresses. L'air de la chambre appelait l'union. Babette, cariatide, était toujours là. La lumière mettait des points d'or sur les bandeaux crépelés de sa blonde chevelure. La lettre de la baronne tremblait dans ma main. Une lutte était ouverte dans mon esprit. L'artiste admirait, mais le libertin souriait au sens. Le dandy, seul en moi, protestait. Une camérière, fit donc. Et c'est enfin que mon regard errait sur la lettre de la maîtresse pour s'arrêter toujours à ce torse de Diane, à ce col droit et bien posé sur des épaules aux lignes sculpturales et tantalesques. Babette, monsieur, « approchez, je vous prie. » Le rideau qu'elle soutenait retomba, l'obscurité se fit dans la chambre, le dandysme céda au désir du libertinage. La lettre d'amour fut sacrifiée à l'amour même. Babette babilla comme un ange. Le plaisir n'a pas d'armoirie lorsque la jeunesse et la beauté sont reines chez la créature. La petite colombe fut tendre. Elle me donna 1000 baisers, autant que Lesbie en prodigua jadis à Catulle, et Lesbie, assurément, ne valait pas Babette, qui, en me quittant respectueusement, demanda « Monsieur n'a-t-il pas de réponse à faire à madame ?»« Oh, viens la chercher demain matin, » ai-je répondu en reprenant à terre la longue épître de sa maîtresse dans mes doigts, qui avait encore la fière des caresses données et le tact des beautés senties. Quand, cyniquement, avec la bravoure de ma franchise, je racontais le surlendemain à la belle baronne mon aventure avec la petite Babette, lui détaillant la fraîcheur élégante de ce tendron, je vis d'abord sur son visage un mouvement de dépit et comme la sensation d'un violent affront. Puis, comme je restais souriant et ironique, elle regarda fixement le bout des branches de son éventail nacré, avec un regard singulier, à la fois cruel et doux. Je lui pris la main, et m'approchant davantage à portée de ses lèvres, je me confessai lentement à son oreille sans me signer dans un acte de contrition inutile et menteur. Babette, Babette, répétait ma grande amie, tandis que j'enfonçais, piquais comme autant d'épingles sur la pelote charnue de son cœur, les mille petits traits de ma fantaisie galante. Ma Babette, mais l'enfant, est-ce possible? S'exclamait-elle, et son œil suivait dans le vague comme une illusion qui s'envole à tire d'elle. Jusqu'alors, la baronne, devant des confidences de ce genre, conservait une tenue de grande coquette, elle soupirait un « ingrat » plein de caresses et de reproches superficiels. Car elle savait qu'en amour, les romans sont plus amusants que l'histoire ancienne et que les faits divers agrémentent le prosaïsme du journal quotidien. Elle excusait, en femme du monde qui sait vivre et aimer, le naturalisme de mes passades. Mais cette fois-ci, il me parut que je heurtais chez elle moins d'insouciance, et je crus lire dans son regard comme un soupçon de féroce jalousie. Étais-je l'objet de ce sentiment passionné, ou mieux encore, ne se manifestait-il qu'en faveur de Babette? Cette dernière pensée se fixa dans mon esprit, évoquant les traits accentués de la tribaderie italienne, ancienne et moderne, et les vices les plus mignons du XVIIIe siècle. Babette avait, j'eus alors m'en souvenir, des manières frisques et polissées, et elle montrait un certain ragoût dans la servilité de ses plaisirs. Vénus est bonne institutrice dans son temple de Lesbos, me disais-je, mais depuis la divine Sappho, les hommes ne sont plus si grecs dans l'orchestration des joies discrètes, et je jure Dieu, sur les manes du chevalier de Faublas, que mon inconstance à la baronne ne sera pas comme ces épées à deux mains qui décapitent sottement le bourreau sans effleurer les victimes. Babette, en me revoyant, a beaucoup ri et un peu pleuré devant le tribunal de mon scepticisme. Le rire ensoleillait la rosée de ses larmes et ses connottes blanches mordaient dans un grincement l'incarnat de ses lèvres épaisses. Elle relevait, pour étancher les perles humides de ses bras yeux, un coin de son dernier vêtement, avec un mouvement de pudeur impudique qui était l'aveu même de sa beauté. Sur de tels apparts, on pouvait fourrager les grâces et jamais boucher, ne mis sur les rondeurs satinées d'une gorge deux petites fleurs de pêcher d'un rosé plus fondant, d'un coloris plus effronté, que celle qu'on pouvait cueillir sur le sein de la fillette. Je compris que l'adorable soubrette n'était point créée pour se fiancer à un rustre d'antichambre. L'amour avait sur elle des droits multiples, et les passions brutales devaient épargner pour quelque temps la délicate idéale de ses contours radieux. En éveillant la nature de la friponne, j'avais renversé le pot au lait de la réalité, et elle me conta l'histoire de ses sens, car les sens, comme les peuples, ont leur histoire, avec l'espièglerie craintive d'un jeune chat. Mais l'histoire de ma petite blonde avait à peine un chapitre. C'était le début original du plus curieux roman qui serait à faire si les modernes Athéniens ne singeaient pas l'austère morale des Spartiates. Ô Babette, charmant professeur! Comment pourrais-je assez te remercier de m'avoir appris à lire dans la grande grammaire de l'humanité que les femmes qui sont fidèles au masculin ne le sont pas toujours au féminin? Depuis cette grave leçon, la pauvre baronne est devenue fière comme une déesse. Lorsqu'après une absence prolongée, je la trouve seule sur sa chaise longue, elle prend une allure de reine amoureuse et d'un ton préfectoral, mitigée par la tristesse railleuse du sourire, elle soupire lentement avec des regrets accentués. « Nous sommes bien tristes, mon doux ami, on nous désire, on vous appelle. C'est mal de vous négliger ainsi pour courir après de nouveaux caprices. Et cependant, libertin, qu'on se défend d'aimer alors qu'on en peut mais, n'avez-vous pas ici ce qu'il vous faut, de l'amour, des caresses et... même davantage. Presque toujours dans l'antichambre, avec ses grands yeux doux, Babette, par son silence, m'en disait tout autant. Bien charmant, ces quelques vers d'un poète du XVIe siècle, c'est l'excuse du donjuanisme et la variante du pâté d'anguille. Les plus délicieux ragoûts dont une fois notre appétit s'aiguise, si l'adresse ne les déguise, nous donne souvent des dégoûts. Le changement réveille, pique, anime, même chardon dégoûte le baudet, ce qu'en latin, par ces trois mots exprime, natura diverso gaudet. Chaque femme n'apporte-t-elle pas à l'homme qui sait et peut en souir son contingent de plaisir? Il n'y a que l'amateur de femmes qui soit logique et indépendant. L'amoureux demeure esclave et sans pratique. Il ne sait pas, en donnant à sa maîtresse la crainte de le perdre à d'autres, lui inoculer le désir de le conserver. L'amour ne vit que d'inquiétude, de soupçons, d'espérance. Il faut y être de sang-froid pour laisser tomber traîtreusement ses sentiments dans un cœur qui vous aime. Un amant fidèle ne sera jamais un passionniste. Pétrarque, en affichant une passion sans espoir pour la belle lourde Nove, se consolait chardellement dans les bras d'une boulangère, à laquelle il laissa mieux que des sonnets, des odes ou des canzones. Et Goethe, aussi pervers que Valmont, écrivit ses pages les plus sentimentales sur le dos complaisant d'une maîtresse passagère. On peut faire du sentiment à la condition de n'en point trop sentir, ou bien encore paraître mourant et platonique à la table de l'amour, en ayant le bon sens de frétailler de ci de là au banquet des marmoseux plaisirs. Tous ces pauvres diables qui guitarisent sous des balcons déserts et qui semblent affamés comme des jeunes lévrons n'entendent rien à la séduction. À Cythère, on ne prête qu'aux riches, on fait peu l'aumône aux pauvres, on ne traite que les repus. Le grand art, c'est de ne rien demander, mais de se laisser tout faire. Les vrais libertins sont passifs, ils ont le dandysme de leur indifférence. L'imagination est leur propre pourvoyeuse, ils fanfreluchent leurs sensations et se recueillent comme des gourmets en dégustant les plaisirs qu'ils éprouvent. Les femmes ne sont jamais des esclaves que de tels hommes devant eux. Elles sentent la puissante rivalité des plaisirs passés ou des joies futures. Elles concourent pour prendre place dans un souvenir et elles déploient toutes les complaisances, toutes les ruses, toutes les habiletés qu'elles peuvent inventer, semblable à un Vatel qui s'ingénierait à découvrir les sauces merveilleuses propres à flatter le palais blasé d'un royal convive. Montaigne disait « Que sais-je ?» et Rabelais « Peut-être ?» Le petit maître amateur et consommateur de femmes est aussi raffiné. Il pense comme ses grands maîtres, mais sa devise est plus décourageante. Il la laisse tomber avec un souverain mépris. C'est le gant de l'indifférence et de l'impassibilité jeté aux grandes passions ou aux fantaisies vulgaires. Et cette devise, éperon d'acier de la galanterie suprême, c'est « à quoi bon ?» ou bien encore « que m'importe ?» Et toutes les femmes le ramassent, ce gant. Il provoque à la lutte « que n'importe ?» c'est une injure à leur beauté. À quoi bon? C'est un défi à leur savoir-faire. Achille n'était vulnérable qu'au talon. Les frères Amazones veulent connaître le défaut de la cuirasse de ces superbes indolents. Elles se croient habiles à l'escrime d'amour, leur vanité est en jeu. Que ne feront-elles pas? Elles videront le carquois de Cupidon jusqu'à la dernière flèche. Mais si elles ont pour partenaire un beau joueur, un homme volontaire et hautain, elles se rendront corps et âme à la discrétion du vainqueur, qui, non moins généreux qu'Alexandre à l'égard de Darius, les traînera un jour son char, sans prétendre esclaver par des chaînes éternelles. C'est faire trop d'honneur à la nature humaine, disait saint Évremond, que de lui donner de l'uniformité. Ne peut-on pas ajouter? C'est faire trop grande injure aux hommes et à femmes à l'amour que de leur accorder de la constance. Dans un évangile fantaisiste, d'après un galant écrivain, Dieu a dit aux hommes, « Les coteaux sont couverts de vignes, les femmes sont pleines de roses, les oiseaux chantent dans les bois. Écoutez, moissonnez, vendangez. » Et aux femmes, Dieu a dit, « Laissez cueillir les roses, elles refleuriront sans cesse. » Et les femmes ont toujours suivi la parole de Dieu. L'amoureux fait fleurir les roses, le libertin les effeuille, les distille et s'en parfume à bon escient. Celui-là, au printemps de la vie, se laisse asphyxier follement par elle. Celui-ci, plus pratique, les conserve et en évoque les esquisses senteurs, avant même que la bise soit venue, ou que les frimas aient passé sur sa tête d'archiviste des grâces, de mémorialiste de la beauté. Chapitre 3. Tâche sombre pour jour néfaste a marqué sur mon coquet calendrier de cypris. Je rencontrai, après un étincelant dîner d'amis, elle marchait crânement, comme seules savent marcher les parisiennes, avec une allure gracieuse et caressante. Ses souliers mignons me parurent enfermer le divin pied d'une fanchette, tandis que ses talons Louis XV, cerclés d'or, battaient avec un son mat l'asphalte du trottoir. Peut-être avais-je le cerveau quelque peu coiffé de champagne, peut-être aussi la plénitude heureuse de ma digestion me portait-elle dans l'œil le monocle de l'indulgence. Je ne sais trop, mais je me sentais en veine de gaillardise. La vie faisait valoir la poupée, et, nouveau Faust, je cueillis cette marguerite de carrefour au sortir du cabaret. Je pris cette fille comme on s'assoit au café, sinon pour siroter un grog, du moins pour voir défiler les badauds. Sur la contrefaçon de la carte du tendre, le pays galant représente des promenades extérieures où défilent des spécimens des vices les plus divers, pour peu que l'on sache les faire sortir de l'étrange tanière des souvenirs où ils sont blottis. En entrant dans sa chambre, j'éprouvais le même écœurement que si je me fusse sali salaudement. La pièce, assez vaste, était tendue d'un vilain papier à fond rouge, semé d'énormes fleurs grises, une tapisserie de vieil hôtel de province. L'armoire à glace à trois corps en palissandre ciré se dressait contre la paroi qui faisait la cheminée à la fleur gris, et d'antiques fauteuils en velours nacara traînaient sur le tapis ponceaux rabais semblables aux draps blanchis d'un billard. Au fond, dans l'alcôve, le lit, élevé comme un autel à Vénus, Pandermos, un lit étagé par trois matelas et recouvert d'un surtout en fausse guipure, au travers de laquelle apparaissait le blanc douteux des draps, mous, chiffonnés, fripés, torchons encore chauds d'une sale cuisine de gargotes d'amour. Tout cela à l'entresol, en pleine rue Lafitte. Je restais silencieux, pris de honte, le dégoût me serrait à la gorge. La fille ôta ses gants, retira son chapeau, ouvrit son corsage avec des lenteurs accablées et des nonchalances d'abrutissement. Son corset, qui tomba, oppressait sa taille et marbrait de filets rouges le jaune bilieux de sa peau. Ses bras de soie bleue étaient tirés sur des maigreurs déplorables et le petit pied de fanchette était déformé et meutri. Dans cette mise à nu d'un corps sans ressort voluptueux, il suintait comme d'un mur d'égout une humidité de vice malsain et des larmes visqueuses de débauche. Elle voulut me passer autour du cou, ses bras arrondis, mais je reculais comme au contact froid d'un serpent. Depuis quelques instants, elle me contait l'emploi de ses journées, l'amabilité généreuse des hommes de bourse, avec le cynisme du débraillé et l'argot spécial des virtuoses de la galanterie. Je la questionnais tristement, sans avoir le courage de jouer les dégénats vis-à-vis de cette cabotine de l'amour, aussi repoussante qu'un ulcère qui se découvre alors qu'on voudrait le cacher. Et lorsqu'elle essaya d'œillader plus tendrement, et qu'elle tenta de m'exciter avec la banalité du sourire aux cabrioles priapesques, je fis un mouvement vers la porte. Image gracieuse et folâtre de mes tangentes maîtresses, tous ces babouins frais et délicats me revinrent en mémoire. Pousser plus avant cette aventure à bon marché, c'eût été non seulement me souiller, mais bien mieux faire affront à mes principes et tirer ma poudre aux chauves-souris des sentines. Que pouvait m'offrir cette gamelle, moi le repu, qui dans les plus fins soupers n'arrive qu'au dessert? Qu'aurais-je pu trouver d'inédit dans cette prostitution? Les courtisanes ont trop connu d'amants pour avoir appris les délicatesses du libertinage. Ce sont les cuisinières des restaurants à bas prix qui triturent salement un mauvais ordinaire. Elles sont pourvues des bégueules pour tout ce qui sort du convenu, afin de rentrer dans les convenances personnelles. Les grandes routes n'offrent pas d'ombrage, on ne s'égare que dans les sentiers isolés. L'amour est un art en dehors du vulgaire. Chacun croit le comprendre, très peu le pratique. Les vrais buveurs soignent eux-mêmes leur vin, et les cavaliers sérieux dressent leur cavale. Ainsi font les rois de Cythère. Ils aiment apprendre à lire à leur sultane dans le rarissime manuel des voluptés complexes. Je me donnais donc la joie de payer le repos d'une nuit à cette infortunée servante de Vénus, sans prendre le temps de récolter les accolades de sa gratitude. En refermant la porte, je l'entendis pleurer. Oh, le vice a quelquefois fait ses humanités. Ô chimiste philosophe, qu'y avait-il dans ces larmes de pauvresse? Chapitre 4. Dans le drawing room de Miss Georgina, j'ai relu par deux fois avec la plus grande attention cette singulière annonce du New York Times. Une dame ayant divorcé deux fois, ayant constaté par expérience combien ces sortes de séparations sont cruelles, désirerait convoler une troisième fois. Son nouveau mari pourrait lui en faire endurer beaucoup et être certain qu'elle ne se séparerait pas de lui. Écrire aux initiales JCW, 31 Wall Street, New York. Il sera répondu par un envoi immédiat de photographie. La dame qui fait l'objet de cette annonce est grande, forte et soulève volontiers de lourds fardeaux à bras tendus. Dents éclatantes de blancheur, complexion tendre. On demande un gentleman de quelque fortune, élégant, distingué, petit et blond. On le préférerait dans le commerce des huiles minérales. Écrire par lettre affranchie. Miss Georgina, accoudée derrière le fauteuil, pendant cette lecture faite à haute voix, riait de ce joli rire guttural spécial aux Anglaises, et dont la fraîcheur et la vibration argentine rappellent le son des clochettes dans l'air pur du matin. Ce n'est point si ridicule, hasardai-je, en conservant un sérieux très britannique. Je vois même toute la poétique future des convenances matrimoniales dans cette hardie déclaration de la dame new-yorkaise. Et je répétais en scandant les mots comme pour bercer un rêve d'avenir. Dents éclatantes de blancheur, complexion tendre, on le préférerait dans le commerce des huiles minérales. What a pity! Soupira Miss Georgina, qui ne riait plus, mais toujours pensif sur le fauteuil, et pour énerver cette naïve nature blonde et rose, je lisais de nouveau avec une affectation réelle. Un gentleman de quelque fortune, petit et blond. Hélas, Miss, je ne suis ni blond ni petit. Elle est grande, forte et soulève volontiers de lourds fardeaux. Volontiers. Mais c'est l'idéal. Mon byronisme en tressaille. Tout le ridicule de ce trivial soliloque, dont une Française eût haussé les épaules en souriant, produisait un singulier effet sur la sentimentalité positive de Miss Georgina. Elle fit quelques pas dans le salon, réunit deux sièges dos à dos, parallèlement, dans un joli mouvement fiévreux. Elle enleva sa longue chevelure d'or, haussa ses manches, et avec la lenteur d'un gymnaste consommé ou l'adresse puissante d'un clown, je la vis s'élever perpendiculairement à la seule force des poignets sur le dossier des chaises et y exécuter des rétablissements prodigieux, tantôt sur un bras, tantôt sur l'autre, me montrant dans la complaisance de son rire heureux ses petites dents blanches et serrées. Puis, après ce viril enfantillage, « My darling, » dit-elle toute frissonnante et l'œil scintillant de fierté, en venant m'embrasser sur le front, « votre grande et forte américaine en ferait-elle tout autant ?»« C'est peine si dans mon saisissement je puis lui répondre « I don't think so, my sweetheart. » Comme je préférais cette démonstration gymnastique à la sentimentalité, aux crises nerveuses, à la tristesse pitoyable de tant d'autres maîtresses. Chapitre 5. Quel adorable petit conte je découvre dans la bibliothèque des petits maîtres. C'est une simple nécrologie, chef-d'œuvre du genre affadi. Je transcris cette littérature au pastel. Monsieur l'abbé de Pouponville était poupon dans tout. Il naquit pouponnement dans une coulisse d'une pouponne de l'opéra et du célèbre chevalier de Mouscoloris, seigneur de Pomador, Ambrezé et autres lieux. Il était pétri de grâce. Il naquit ce qu'il devait être. À peine avait-il 2 mois qu'on remarquait déjà dans ses gestes enfantins un bon goût exquis. Il têtait si gentiment, si mignonnement, que c'était un ravissement pour sa nourrice. Toutes les femmes qui le voyaient têter lui auraient volontiers donné leur sein à sucer, susauter, caresser. S'il pleurait, c'était avec une grâce infinie. S'il criait, c'était avec une douceur même, une espèce de mélodie cadencée dont le charme délicieux passait jusqu'au cœur. Alors un déluge de pralines et de bonbons de toutes sortes l'inondait de toutes parts. Il était choyé, caressé, dorloté, baisé, léché, presque étouffé. Dès l'âge de 10 ans, ses qualités précieuses commencèrent à se développer. Quelle vivacité, que d'esprit, que d'agrément, quelle bouche pour sourire et mignarder, quels yeux pour languir et brûler. Sa mère résolut d'en faire un présent à l'opéra ou de le jeter dans l'église. Il fit ses études avec une rapidité incroyable. La lecture d'Angola, de Bibi, des bijoux indiscrets, du Sofa, des matinées de Cythère et autres livres orthodoxes lui apprirent autant de théologie qu'il en faut pour triompher des cœurs dans les ruelles. Aussi fut-il bientôt en possession de subjuguer toutes les femmes. On ne saurait croire combien un petit collet donne d'accès auprès du sexe. Avec un rabat de la première faiseuse, un teint miraculeux, des yeux de la plus vive expression et jouant à merveille l'attendrissement, l'air et le ton de l'extrême bonne compagnie, une voix porlée, flûtée, des lèvres d'un incarnat et d'une fraîcheur à faire envie, un assassin placé dans les règles les plus étroites de la mode. Quelle vertu, ou plutôt quelle fausse prudence, aurait pu se soutenir et résister à des armes pareilles? Enfin, lorsqu'échappé d'un tête-à-tête galant, il montait dans la chair de vérité, il avait l'air d'un chérubin adonisé. Un texte, pris des endroits les plus voluptueux des cantique, annonçait un exorde délicieux, suivi d'un discours en 2 petites parties, aussi leste que divinement bien tourné. Il était couru de toutes les femmes du bon ton. La morale qu'il leur débitait était celle des poètes et des romanciers, déguisés sous une nuance légère, de spiritualité. Il peignait tout en miniature jusqu'à l'enfer et au péché. Il nous reste encore quelques sermons de cet apôtre à blonde chevelure. Ce sont la vie et la conversion de Madeleine avec ce texte « Osculetur, me osculo, oris sui » qui me donne un baiser de sa bouche. La Samaritaine « Introducet me in cubiculum suum » il me fera entrer dans sa chambre. La femme adultère « Amore lingueo » je languis d'amour. Ces trois sermons sont des petits chefs-d'œuvre de galanterie exquise. Toutes ces phrases respirent le souffle léger de la volupté. Aussi, toutes les petites maîtresses s'écriaient au sortir du sermon « Ce pauvre vil est un prédicateur divin, un organe insinuant, des gestes à ravir, un air mouton, un sourire supérieurement fin, un persiflage décent, tel qu'il convient aux gens du beau monde. Des descriptions d'un gracieux, d'un exquis, à faire pâmer, et s'il prêchait plus souvent, mais il ferait déserter tous les spectacles. Non, oh, je n'ai jamais eu tant de plaisir à l'opéra qu'au sermon de cet aimable Pouponville. C'est de lui que nos jeunes abbés ont hérité des belles manières qui les distinguent. La coutume de se faire coiffer double et triple rang de boucles, de se parfumer pour remplir l'auditoire de leur bonne odeur, de prendre un morceau de sucre, candi ou une pâte de guimauve au bout de chaque période un peu longue, afin de conforter leur poitrine fatiguée, d'avoir un mouchoir d'ambré qu'ils laissent tomber au moins deux fois par séance pour voir l'empressement des femmes à le ramasser, de promener amoureusement des regards sur une assemblée brillante de beauté à demi voilée pour se concilier leur attention. En un mot, c'était un phénomène digne d'être proposé pour modèle aux élégants de tout genre et aux amateurs de beaux airs et des manières gentilles. Aussi avait-il fait une étude sérieuse de ce qu'on appelle bon ton, fatuité, élégance, papillonnage. On voit par quelques feuilles manuscrites qu'il composait à sa toilette combien profondément il avait réfléchi sur ces grands objets. Cependant, la prédication lui fut fatale, très fatale. Un horrible vent coulis, venu d'une porte inexactement fermée, lui ôta tout à coup la voix et la respiration. Un pli qu'il aperçut à son rabat lui donna de nouvelles vapeurs qui le firent malade à périr. Il s'évanouit. Pour le faire revenir, on eut l'incongruité de lui présenter de l'eau de la reine qui ne venait pas de chez la petite marchande, la seule qui pût en avoir de bonne. Ce troisième coup le bouleversa. Enfin, pour comble de malheur, un malotru de médecin habillé comme aurait pu l'être Hippocrate ou Galien, en habit noir et sans dentelle, vint lui tâter le pouls. Il ne put digérer ce trait de la dernière maussaderie. Le cœur lui souleva et notre damoiseau rendit son âme mignonne en demandant si on avait apporté ses souliers brodés, sa ceinture à gland d'or et la nouvelle façon de mouche qu'il avait fait demander chez Dulac. On l'ouvrit, on ne lui trouva ni cervelle ni cervelet. Une légère quantité d'une substance neigeuse et fondante au moindre trait, lui en tenait lieu. Toutes les fibres et fibrilles du cerveau étaient d'une ténuité, d'une finesse, d'une exilité bien au-dessus de celle d'un fil d'araignée. Son cœur, un peu au-dessous de la grandeur ordinaire, avait les deux branches de l'aorte extrêmement étroites. Les anatomistes attribuèrent cette construction à la facilité prodigieuse qu'avait notre Adonis à vaporer, s'évanouir, défaillir, périr, presque à chaque moment. Son sang ressemblait à l'eau rose, et sa chair était tendre et délicate, comme la substance des zéphyrs. Il fut regretté des femmes. Les petits maîtres perdirent avec une joie maligne un rival aussi formidable. Un adepte de ses élèves lui fit ériger, par reconnaissance, un mausolée élégant. C'était une table de toilette, richement garnie et très élégamment décorée de bougeoirs, de miroirs, de boîtes, de bijoux, de pâtes, de parfums, de rouges, de blancs, d'éponges, d'eau de senteur, etc. On y mit cette épitaphe. Ici repose mollement, dessous cette tombe mignonne, l'arbitre du raffinement, dont l'air, le cœur, le nom et la personne respiraient tous un doux pouponnement. Il avait l'homme si pouponne qu'il pouponna des romans, des chansons et même aussi de fort jolis sermons. Ainsi finit cette délicieuse oraison funèbre de Ange Rose Farfadet, abbé de Pouponville, le mignon des grâces, la perle des petits maîtres, l'élixir de la galanterie, la coqueluche des femmes et la quintessence de la gentillesse. Je devais exhumer pour les relire de temps à autre ces quelques pages malicieuses qui dégagent un parfum capricieux comme une boîte de pastilles à l'ambre. Que de Pouponville rencontre-t-on aujourd'hui qui ne vont pas à mi-corps du cher petit abbé que nous venons de mettre en lumière? C'est cette émule des Cléon et des Dorival qui laissa après sa mort ces quelques notes inimitables. Aujourd'hui, j'ai lorgné et relorgné 304 femmes au spectacle. Le reste n'en valait pas la peine. Encore, je n'en ai remarqué aucune qui méritât qu'on fît une démarche. On est malheureux d'avoir le goût si super fin. Il y avait longtemps que les hommes faisaient les vacances. J'ai mis les femmes sur le pied de jouer ce rôle à leur tour. C'est à mes confrères de les y maintenir. Je réponds de moi. Ne voir et n'avoir une femme qu'une fois, une seule, quelque divine et miraculeuse qu'elle soit, c'est une maxime dont je me trouve bien. Je les laisse toutes sur la bonne bouche et toutes sont folles de moi en mourir. Mais plus jamais je ne leur accorde la moindre faveur. Le médecin céleste que pas moisson, il a guéri ma levrette grise et mon perroquet amazone. Je veux lui donner un bijou précieux. C'est le portrait de ma dernière maîtresse d'hier. Qu'en ferai-je aujourd'hui? Chapitre 6. Pendant tout le temps que dura le dîner, ma trop charmante amie, madame fut effrontée comme un petit page et libertine comme la fameuse marquise de Merteuil. Nous étions 6 au plus, tous littérateurs, sans compter le mari. Un hors-d'œuvre, maigre comme une sardine, pointu comme un radis, dur comme une rondelle de saucisson d'alors. Elle avait placé à sa gauche, à table, et Ménélas faisait vis-à-vis. Mon aîné était prise à ravir dans un merveilleux fourreau de satin noir, décolleté à souhait pour le plaisir des yeux. J'entendais la soie craquer sous les frissons nerveux que lui faisait éprouver le langage éloquent de ma bottine, et je me mordais les lèvres pour ne pas pousser des petits éclats joyeux, lorsque la main mutine folâtrait en s'attardant sur un point chatouilleux de mon genou. Au dehors, la pluie tombait, l'atmosphère de la salle, tiédie par la lumière des candélabres, était imprégnée de fumée, des truffes, du bouquet des vins et de l'arôme capiteux des caissons de foie gras. J'éprouvais un affaissement, une mollesse, un besoin d'abandon, une certaine chaleur de digestion contrariée, qui évoquait le boudoir et le confort des divans profonds. J'aurais voulu pouvoir dégrafer, délacer, déchirer des étoffes ou mordre des batistes, des perles humides et chaudes scintillaient sur les pores de mes mains. Les convenances m'empalaient sur mon siège. Et elle, la perfide, avec le don d'ubiguïté qui semble donner aux femmes du monde et également au monde des femmes en général, elle, souriante pour tous, aimable pour chacun, polissonne à mon égard, distribuait des grâces et me réservait en grâce sa grâce. Elle, maîtresse de ma maison et maîtresse de mon cœur, avait l'œil à tout et n'avait un regard que pour moi. Ô créature complexe qui savez et pouvez vous isoler, vous donner un seul et vous gaspiller à l'humanité tout entière dans le même instant. Ô fille de Vénus, fée capricieuse et insaisissable, alors que vous vous êtes implantée par amour dans l'âme de votre amant, votre beauté vous prostitue au désir, aux rêves licencieux, aux fantaisies paillardes, aux embrassements convulsifs, dans l'imagination des mâles hardis qui vous contemplent. Est-il une femme qui soit restée vierge du désir d'autrui? Peu importe après tout si le regard altéré et absorbant de l'ivrogne qui me boit des yeux me fait trouver meilleur le vin que je porte à mes lèvres. Je me mets d'accord avec la trivialité du vieux proverbe. Lorsque mon verre est plein, je le vide, et lorsqu'il est vide, je le plains. Elle avait une rose écarlate plantée glorieusement dans l'échancrure de son corsage, entre la double colline tant chantée par tant de poètes maupiteux et malins. Et à un moment, lorsqu'elle se pencha pour porter un toast, elle calcula si gentiment son mouvement que brusquement mes lèvres cheminèrent dans la vallée du Pinde et je respirais moins la fleur que le parfum singulier de sa peau qui me fit passer dans la tête comme un vertige de rut. Le mari, aimable et monasse, dans un langage pompeux, critiquait Jean-Jacques et la nouvelle Héloïse sur ce thème « Aidé de la sagesse, on se sauve de l'amour dans les bras de la raison ». Et moi, je répétais doucement ce début de la lettre 12 à Julie. Qu'as-tu fait, oh, qu'as-tu fait, ma Julie? Tu voulais me recommencer, tu m'as perdu. Je suis ivre, ou plutôt insensé. Mes sens sont altérés, toutes mes facultés sont troublées par ce baiser mortel. Tu voulais soulager mes maux, cruel, tu les aigris. C'est du poison que j'ai cueilli sur ta gorge. Il fermente, il embrase mon sang, il me tue. Rousseau, concluait Ménélas, a toujours préféré les paradoxes aux préjugés, puis reconnaissait-il seulement ses enfants. Les mœurs, messieurs, comme le disait Restif de la Bretonne, peuvent être comparées à un collier de perles. Ôtez le nœud, tout défile. Pardieu, je crois bien. Sous la table, les doigts fluets de ma spirituelle voisine s'égaraient de plus en plus dans des caresses cupidiques. Comme nous nous rendions au fumoir, précédé de l'anti-Rousseau, étant le plus jeune, je restais le dernier. Elle était près de la porte, et lorsque je passais, je reçus le péage. Avec une étrange bravoure devant un danger possible, elle m'entoura par derrière le col de ses bras nerveux et me planta crânement un baiser sur la nuque, près de l'oreille, en me confirmant à voix basse le rendez-vous du lendemain. Je me cabrais sous l'éperon des désirs qu'elle faisait naître et que je ne pouvais anéantir dans sa possession. Pendant qu'elle allumait mes sens, le mari m'offrait un cigare, à l'aide duquel j'endormis mes révoltes aussi doucement que l'on berce un enfant criard au berceau. La conversation s'anima dans cette intimité d'homme à homme. Le grand et terrible critique Z, appuyé au chambranle de la cheminée, superbe comme Byron, massacrait le pauvre diable d'écrivain en les criblant d'épigrammes cruels. Ces beaux mots, verveux, pétaradaient comme une gerbe de fusée dans un jeu pyrrhique. Il mitraillait les philistins des lettres sans pitié, avec une furia de mousquetaire triomphant et sûr de ses coups. « Mon Dieu, mon cher, quelle superbe franche vous êtes !» lui dis-je, surpris de la justesse de ses traits piquants et acérés. « Que voulez-vous ? » me répondit-il en se campant le buste en avant. « J'ai tellement reçu de flèches dans ma vie que je suis devenu carquois. Je retourne les traits qui m'ont été décochés, si souvent mal à propos, et je tâche, moi, de ne pas manquer ce que je vise. Au reste, poursuivit-il, chacun suit son étoile, et je crois aussi du zodiaque. Je suis né sous le Sagittaire, et vous? Au septembre, on m'a vu naître, ainsi que dirait un romancier du Premier Empire, mais j'ignore les fameux signes du calendrier, sauf ceux du calendrier de Vénus. Septembre, c'est la balance, mon ami. Pour tout le monde, ce serait la justice, mais pour vous, c'est mieux encore, et vous ne pouvez en nier l'influence. C'est l'art parfait de balancer les femmes sur les légers plateaux de l'inconstance. Demandez plutôt à notre hôte. Peut-être bien, dit Ménélas. Ainsi, je suis né en décembre, le jour de la Saint-Jean. Quel est mon signe? Décembre est le Capricorne, mon cher. Elle vous en félicite, répondit-il avec une superbe ironie, le grand critique. Vous, un homme paisible, mais qui s'en serait douté? Mais chut, voici votre femme. Le pauvre homme avait le sourire le plus gaillard du monde. L'amour n'est pas le seul à porter un bandeau. Les maris ont souvent une visière de cuir, comme l'aveugle du Pont des Arts. Mais ils ne s'aperçoivent pas toujours qu'ils se mettent à deux pour jouer sur la même clarinette. L'un y fait des canards, l'autre y roule des mélodies. Chapitre 7. Rien n'approche de l'ennui que dans une passion qui dure trop, dit saint Évremond, avec un jugement sage et profond. Il y avait plus d'un mois que je mitonnais les mêmes plaisirs avec Miss Mary. C'était esquisser un bail d'amour et je devais donner congé à demi-terme si je ne voulais pas me manquer à moi-même, ce qui était la plus grave des impolitesses. L'adage prétend qu'une maîtresse de perdue 10 heures trouvées, mais la logique affirme qu'une maîtresse de gardée est 10 de perdue. Et Mary ne savait absolument pas la peine que je perdisse les faveurs des plus jolies petites reines de la création. Un Vauvenargue quelconque a écrit quelque part: Nous méprisons beaucoup de choses pour ne pas nous mépriser nous-mêmes. C'est absolument ma pensée. N'aimer qu'une femme, c'est se mépriser. En aimer plusieurs, c'est en mépriser beaucoup, mais se redresser dans sa propre estime. D'où je conclus qu'une petite femme aimée était un lourd fardeau. Il était urgent pour moi de changer à la banque de Cythère ma grande passion pour une menue monnaie de petits caprices à gaspiller à pleine main sur la roulette de la bonne fortune. Mary était une charmante aventurière, voluptueuse et fière, pleine de jeunesse, de gaieté, d'insouciance. L'esprit de Sophie dans le corps de Musidora. Ses yeux introuvables cherchaient l'étrange jusque dans la jouissance. Je la jugeais dangereuse pour un homme à imagination dépravée. Je résolus donc de rompre gentiment avec elle dans une petite fête intime, et je l'engageai par lettre à faire abdication de notre amour devant un spirituel flacon d'ail. Elle accepta par ce triste sonnet, plus mémorable que parfait dans sa forme et sa correction. Est-ce une épître funéraire ou le billet doux d'un viveur? Malgré sa verve cavalière, ta lettre m'a fait froid au cœur. Est-ce ainsi qu'il faut qu'on enterre ce pauvre amour au ton moqueur, de ton verre or tend mon verre chez un fameux restaurateur? Puisque tu le veux, chez Vachette, au bruit banal de la fourchette et des stupides calembours, je serai ta digne compagne et nous noierons dans le champagne ce qui reste de nos amours. Et à 10 heures du soir, après le dernier verre d'un pétillant cliquot, nous chantions le De Profundis sur le cadavre alcoolisé de notre passion. À 11 heures, j'attendais à la sortie d'un petit théâtre de genre une blonde enfant, cabotine d'opérette, qui remplissait mieux son maillot que ses devoirs. L'hygiène du cœur consiste à y établir des courants d'air amoureux, sans y laisser stationner les miasmes d'une maladie de langueur. On peut permettre à une femme de se jeter par la fenêtre pour ouvrir la porte à une autre aussitôt, sans que les regrets, ces huissiers minutieux, aient le temps d'inventionner d'inventorier les doux souvenirs des temps qui ne sont plus. Entre Mary et la jeune prima donna, le contraste était grand, mais aucune n'avait le désavantage. Tout se compensait. À la belle Imperia succédait la mignonne Regina. C'était la chatte qui se blottissait dans l'antre de la lionne. Et pour achever cette comparaison naturaliste, je pensais aux jolis mots si profonds de Mademoiselle Arnoux. Une souris qui n'a qu'un trou est bientôt prise. J'ai reçu une longue lettre de Mary, encore dans les bras de Nanine, ma petite commère de revue. Je me suis donné le plaisir de la lire doucement, en jouant avec les longues torsades de cheveux de ma nouvelle maîtresse. Quand je t'ai quitté hier, mon ami, disait la lettre, quand brusquement séparé de toi, j'ai été rappelé à la réalité de notre situation, j'ai senti, je t'assure, un vide profond, quelque chose comme un déchirement intérieur. Je suis rentré chez moi, les yeux secs et le cœur gros. Alors j'ai relu tes lettres, sans y trouver, hélas, ce que j'y cherchais. Homme insaisissable, j'ai dû me rappeler les premiers moments de notre liaison, certains éclairs lumineux où tu étais peut-être toi. Et comme après tout, il est toujours pénible de perdre une illusion, si légère soit-elle, je le confesse, j'ai pleuré. Il fait faim, disait Nanine au lit en étirant ses bras de caillette sur les guipures de l'oreiller. J'embrassai vivement son petit visage chiffonné par le sommeil et l'amour et continuai la lecture. Nini, c'est fini, mon pauvre cher. Nous allons donc être amis, rien qu'amis. Ce sera original, du moins, si c'est peu vraisemblable. J'ai la mort dans l'âme, et pour te plaire encore, je prends mon papier couleur de printemps, ce papier cuisse de nymphe que tu aimais tant aux quelques jours fugitifs de nos fugitifs amours. Nous allons sortir du prévu, du convenu, de l'ordinaire. Nous serons amis, rien qu'amis. Pour un mangeur de cœur comme toi, pour un franc buveur d'inoubliable volupté, pour un sceptique qui se retire alors qu'il paraît se donner, le changement sera peu sensible. Combien de pauvres amantes n'as-tu pas mises aux invalides de ton amitié? Pour moi, je me rends, mais ne désarme pas. Quelque beau jour, un caprice nous réunira. Nous jaserons comme de vieux camarades, et puis tout à coup, ma foi, sans nul songement, comme tu as 26 ans et que j'ai, dis-tu, du sang de succube dans les veines, nous oublierons l'amitié, la morale, les convenances, notre pacte, l'heure qu'il est, le temps qu'il fait, et un formidable coup de canif sera donné. On ne dit pas non à ce curieux et féroce contrat amical que tu as rédigé toi-même. Fi, monsieur l'impoli, continuait Nanine, vous lirez votre lettre plus tard. Dis-moi, Mimi, quelle heure est-il? Il faut pas que je manque ma répétition. Le régisseur est un vilain gros singe, je serai à l'amende, mon beau chéri. La lettre de Miss Mary se terminait ainsi. Ne crains pas cependant que je veuille renouer des liens amoureux. Nous éprouverons l'un et l'autre plus de plaisir à nous voir, parce que tu ne seras pas mon amant. Un mot bête et que je ne serai pas ta maîtresse, chose banale. Je rêve néanmoins de m'éveiller encore un matin dans certaines alcôves mystérieuses, tendues de soie noire, parsemées de boutons de rose, où j'ai cru follement avoir été aimée, et où je suis certaine d'avoir aimé. Mais je vous quitte, un mot, un petit mot, mon bon monsieur, pour l'amour de notre amitié. Ma jolie cabotine s'était rendormie et songeait à des couplets de Clerville et des colors mi-partis. Je n'ai jamais tant aimé la femme à travers les femmes et les maillots roses au travers des bas bleus. Nanine est une créature tout bêtement exquise, une tête façonnée par un marbre de satyre tombé en entier. Elle met très au juste l'orthographe, parle en fillette de 12 ans et possède des pattes de mouche à faire revivre tout un ancien vaudeville. Elle joue avec ma chatte sur les tapis des heures entières, en poussant des cris adorables de gamine en récréation. Elle sauterait à la corde si elle pouvait. Elle rit, elle pleure, elle chante toujours aussi gaiement. C'est un rayon de soleil, fait femme. Quand elle boude, sa petite moue est réjouissante, et quand elle aime, c'est un concert produit par les grelots de la folie. Elle a toutes les complaisances, toutes les impudeurs, toutes les délicatesses heureuses. Jamais gauche, toujours coquette, c'est une petite maîtresse d'étagère. Elle papillonne dans mon intérieur sans faire ombre à ma vie, sans arrêter le vol de mes pensées. On lui jette des images sur lesquelles sa vue se pâme. Elle lit Pigault le Brun ou Paul de Kock en faisant vibrer sa joie. Et parcourt seulement Musset, car sa naïveté charmante se refuse à interpréter Les Nuits, Rolla ou Le Secret de Javotte. Peut-être sourit-elle à Bibi Pinson, mais il y a encore trop peu de distance de la coupe à ses lèvres. Elle babouine plutôt qu'elle ne parle. Si je l'amène à la campagne, Nanny embellit la nature. Elle arrive comme une aurore de printemps, le matin, joyeuse et sautillante, heureuse de courir dans l'herbe et de friper ses jupes et ses volants dans la brouhaha des gares. Dans les champs, une poule est une révélation, un petit poussin, un joujou japonais. Elle va, vient, lutine les chiens, grimpe aux arbres, fait jouer l'aviron des canaux ou cueille, baignée de lumière et de grâce, des coquelicots et des bluets qui font valoir sa fraîcheur délicate de fille d'amour. Nanine a 18 ans et joue avec son cœur comme avec un hochet. Connaît-elle le prix des baisers qu'elle me donne à toute heure, à tout instant, à chaque seconde, quand ses cheveux freins, vandiques, volent au vent, étourdis comme un hanneton, le regard espiègle, le nez coquin, le menton marqué d'une fossette polissonne, elle applique ses lèvres fraîches sur mes lèvres avec l'enfantillage d'une passion qui s'ignore. Je puis tromper Nanine sans qu'elle en prenne ombrage. Au reste, lorsque la cage est peuplée d'oiseaux qui gazouillent, les chats entrent leurs griffes et écoutent. Don Juan n'aurait que faire de briser ce petit cœur d'agnelet. Il n'y a que des rustres qui dénichent les nids. Les vrais chasseurs ne tuent point les rossignols. Revue la triste Mary ce soir chez moi, un mois après notre rupture. Tout d'abord un grand froid, puis une conversation amicale à la turque sur des coussins jetés à terre. Retour sur le passé. Nous égrenons sur le tapis tous les souvenirs d'autrefois. Elle avec une amertume visible, moi avec une froideur marquée. Il me déplaît d'exhumer des sensations mortes. Elles ne revivent jamais avec la même expression. Dans le cœur d'un pauvre homme, jeune homme, ces sortes de cadavres sont toujours trop légèrement enfouis. Alors qu'on peut encore agrandir son cimetière d'amour, il faut laisser au temps le soin d'achever son œuvre. La vieillesse impuissante retourne ce champ de repos. Le présent est chargé de meubler l'avenir, et ce n'est que lorsque le feu est éteint qu'on peut remuer les cendres. Mary fit des prodiges de diplomatie passionnée. Elle essaya, mais en vain, de faire sonner toutes les cordes de la lyre. Mais je n'étais guère en humeur de chanter, et ma lyre ne rendait que des sons de vieilles guitares mal accordées. À minuit, elle regarda la pendule et fit mine de partir. Je la laissai faire, sans quitter ma posture alanguie, ni proférer une parole. Alors, s'élançant sur moi, elle m'enlaça, m'embrassa, me caressa, me réchauffa, avec une brutalité de tigresse ardente et affamée. L'amitié jurée fit un plongeon. Devant les glaces de mon mutisme, cette femme succube s'était redressée, brûlante comme un brasier. Le coup de canif était porté au contrat. Mais mon moi pensant n'avait pas eu part aux états. J'étais furieux de cette victoire emportée sur mes sens contre mon gré. Et ma passivité, non voulue, m'attristait. Ne vaut-il pas mieux aimer sans retour que d'être aimé avec cette furia? Quand le dédain du cœur le plus grand répond à un sentiment si violent, elle, cependant, était glorieuse. Et comme je l'accompagnais à la porte pour ne pas prolonger cette situation trop ou trop peu tendue, elle me lança, avec un sourire diabolique, ce mot d'adieu à la Socrate. Amour, tu es tout. Amitié, tu n'es qu'un vain mot. Chapitre 8. Veuillez croire, mon cher, que cela existe beaucoup plus que vous ne le supposez. C'est une femme d'expérience qui vous parle, étonnée. Voici l'épître que j'ai reçue. Lisez. Elle est signée en toutes lettres par une princesse russe. Mais peu importe, vous serez discret si bon vous semble. Et je lus la plus étrange déclaration d'amour, écrite avec l'outrance passionnée d'une femelle qui voudrait être homme. Je savais que le grand César était appelé le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris, mais je ne concevais pas chez le sexe faible une tendance aussi manifeste et aussi césarienne. Mon aventure avec Babette et la baronne m'avait révélé des points jusqu'alors indécis dans ces curieuses accordailles, mais mon rôle du moine n'y était pas effacé, et comme les danseurs antiques, je pouvais apparaître au milieu du festin. Mais ici, la virilité était bafouée, méprisée, dénoncée comme une turpitude. Le temple de Vesta déployait seul sa svelte architecture. Maudit était le mâle qui faisait mine d'y pénétrer. C'était l'élément destructeur des mœurs douces et liantes. C'était le hideux procréateur, le méchant faune égoïste et brutal qui amenait à la suite d'un faux plaisir la douleur, les anxiétés, les dégoûts et la perte fatale des formes les plus pures. Mais voilà qui est fort intéressant pour l'étude sociale, dis-je à mon interlocutrice en repliant la lettre. Le document est superbe et hautement paraphé. Suis-je indiscret en vous demandant quelle réponse fut la vôtre? Oh, aucunement, ami. Vous pensez bien que je ne répondis pas. Mais à quelque temps de là, la signataire m'ayant rencontré dans un salon, vint à moi, aimable et pleine d'attention, et après s'être informée de ma santé, elle manifesta un grand étonnement de mon silence à sa lettre. Quoi, c'était vous, princesse? Fis-je avec la plus souveraine froideur. Ah, pardonnez-moi, en vérité, je croyais qu'une telle déclaration devait être de votre mari. Et vous ne la revîtes plus? Oh, jamais. Votre anecdote, ma belle amie, me remet en esprit ce joli tableau de genre en trois mots que j'ai lu, je crois, vous ne sauriez le supposer, dans les mémoires de Monsieur Joseph Prud'homme. Monnier y raconte ainsi une visite à Mademoiselle Racourt, qui était, vous le savez, au siècle dernier, la grande prêtresse de la sainte de la secte Anandrine. Mademoiselle Racourt portait une robe de chambre en molleton, des pantalons à pied également en molleton, et un bonnet de coton incliné sur l'oreille. On venait de servir le déjeuner, et elle était assise à table entre une jeune fille fort jolie et un petit garçon. Prendras-tu du chocolat ou du café au lait ce matin? Demanda Mademoiselle Raucourt à sa voisine. Oh, du chocolat, mon cher ami, le café au lait me fait mal. Et toi, mon petit, veux-tu encore du beurre? Merci, papa, j'en ai assez. Cette photographie de famille est exquise, n'est-il pas vrai? Elle en dit plus qu'elle n'est grande. On peut y voir des choses. L'infini est pour moi, qui ai lu et relu la littérature érotique de tous les temps, depuis le grivois jusqu'à l'horrible, en passant par les gradations les plus nuancées, je n'ai pas encore oublié ce simple petit croquis de Joseph Prud'homme, expert en écriture, élève de Brard et Saint-Omer. Ah, comme je voudrais, madame, vous montrer mon érudition profonde sur ce sujet, lesbien, mais il nous faudrait fermer les portes, m'écouter sans rougir, ou bien rougir sans m'écouter. Je passerai de la Grèce à Rome, de la Chine à l'Orient, de Paris à la province, de la Régence à l'Empire, avec des textes variés. Si vous étiez la chevalière d'Éon, j'oserais peut-être, mais. Chapitre 9. Je comprends mieux que tout autre le compagnonnage intellectuel, m'écrivait la minaudière Madame de C. Il y a bientôt 8 jours. Croyez-vous que je veuille jouer près de vous le rôle d'une femme jalouse, d'une maîtresse en scène? Le ciel m'en préserve. Je ne veux rien savoir. Je veux vous voir vivre, vous panser l'âme, comme une sœur de charité panse les blessures du corps. Je vous apprendrai à aimer de la bonne façon, sans orage, sans déchirement, sans inquiétude, sans jalousie, tout doucement, bien tendrement. Vous serez pour moi un grand bébé devant lequel je serai en adoration, comme les mères devant leurs enfants. Je me suis cru, en lisant ces mots vers 1820, à l'époque où l'on jouait encore de la cithare sentimentale, devant des littérateurs larmoyeux et des poètes édités par l'avocat. Madame de C fait voile vers la quarantaine. Ce lazaret d'amour des femmes du monde. Elle est forte et langoureuse. Il ne lui manque que le turban de Madame de Staël. Elle ne veut rien savoir, mais elle veut tout comprendre, tout connaître. C'est un autre temps vers lequel elle recule et entraîne ma vie comme pour mieux se rajeunir. Depuis que je la vois, je me meus dans des intrigues à la Ducray du Ménil. Je relis, par la réalité, Madame de Valnoir, Coëlina ou l'enfant du mystère, Jules ou le toit paternel et autres épopées romancières en plusieurs volumes. Elle arrive quelquefois le matin comme un ouragan dans un grand manteau noir, la tête encachetée dans une longue mantille. Elle se pâme et comprime les battements de son cœur, s'affaisse sur un siège et semble dire « On m'a suivi, je suis perdu. » Je reste froid à ces déclarations et y porte juste le même intérêt qu'à la reprise d'un vieux mélodrame. Hier, j'ai voulu rompre, cela m'agaçait. Dans un billet fatal et ténébreux, je réclamais mes lettres en échange des siennes afin de ne pas oublier le réalisme de la couleur locale. J'attendais Justine la chambrière, hélas, ce fut elle qui vint. Elle se fit annoncer et marcha avec un air brisé jusqu'au fauteuil qui lui était offert. Un juge d'instruction eût envié ma rigidité impénétrable. « Monsieur, je vous rapporte vos lettres. » Elles étaient nouées dans un ruban mauve. « Madame, je vous rends grâce. Voici les vôtres. »« C'est donc fini, » dit-elle avec un gros sanglot dans la voix. « Oh, perfide, mais que vous ai-je fait ? Voyez mes yeux, ils sont tout rouges des pleurs de la nuit. Depuis que je vous connais, je me meurs. J'ai tant besoin de ménagement. » Elle était fraîche comme un rubens. « Pourquoi ne pas nous laisser aller à l'amour ? Il fait si beau, le ciel est si pur, les oiseaux chantent, tout nous invite aux joies enivrantes, aux douces caresses, aux charmes profonds. » Vous m'aimez, je le sais, je veux le croire. J'avais cependant tout mis en œuvre pour lui prouver la vérité, c'est-à-dire le contraire. Ah, ne sois pas insensible à ma voix, viens, regarde-moi. Me trouvez-vous jolie, monsieur? Cette beauté dont on me gratifie dans le monde, elle est à vous, et vous seul, cependant, ne m'en avez jamais fait le plus petit compliment. Voyons, embrassez-moi. Faut-il que moi, je me jette à vos genoux ? Comme je restais glacial et ennuyé, chantonnant intérieurement comme ironie une romance en mineur de la grâce de Dieu, elle éclata. « Ah, ne jouez pas au Byron, ne faites pas votre Manfred, monsieur. Je sais tout ce qu'il y a de grand, d'incompris dans votre âme. Vous êtes un lion blessé qui se défend d'aimer. » Dites-moi le nom de celle qui vous a torturé. J'irai la chercher. Je vous la ramènerai douce, repentante et docile. Mais parlez-moi de grâce. Ne restez pas ainsi comme une statue de pierre. Le destin fatal veut que j'aime tout en vous, vos manières, votre personne, votre esprit, vos vices et même vos vilains gros défauts. Moi qui suis si fière, si orgueilleuse, si indomptée. Mais suis-je assez bas devant vous? Mais c'est horrible! » Elle parlait toujours, et cette petite voix maniérée, sortant de cette mamomeuse poitrine, m'invitait, riait à l'extrême. Cette plantureuse Julon jouant à la petite maîtresse, ses langueurs dans cette puissance, ses larmes dans ses yeux arides, ce comédisme tout cérébral, qui laissait le cœur intact et le corps vierge d'émotions, Tout cela n'était que ridicule, et je le comprenais, car le vrai touche toujours son but. On peut s'en défendre, mais on ne saurait le méconnaître, quand en amour on reste maître de soi et qu'on se désintéresse franchement dans la partie. Et déjà, elle se renversait dans une feinte attaque de nerfs, son mouchoir sur la bouche, comme pour arrêter des suffocations. Je me préparais à distiller quelques gouttes d'eau de mélisse sur ses lèvres, lorsqu'on m'annonça un ami. Ma porte n'était pas condamnée, c'était un sauveur. Madame de C prit congé de moi avec l'amer regret d'avoir été interrompue dans sa crise. Au moment de franchir la porte, elle revint sur ses pas. Oh, « Pardon, monsieur, j'oubliais mes lettres. »« Mais lesquelles, madame, les vôtres ou les miennes ?»« Celles que vous m'avez écrites, cruelle, et que je ne puis me décider à vous restituer. »« Je n'ai jamais pu rompre avec madame de C, alors que je me dispose à arranger cette sotte fantaisie dans l'histoire ancienne. » Elle revient ajouter de nouveaux documents au dossier. Il est des orques de barbarie qui prennent l'habitude périodiquement de moudre des airs dans les cours. Ainsi fait cet ingénu marqué. Elle se manifeste dans son exigence et son encombrante corpulence, à l'exemple d'une trombe impétueuse, et elle soupire mignardement comme une sylphide. Je tiens si peu de place et veux si peu de choses. Que me serait-il arrivé, grand Dieu, si j'avais couronné la flamme d'une telle bacchante élégiaque? Oh, je lui ai bien permis quelquefois certaines privautés, de même qu'on se laisse lécher la main par un bon gros chien, mais je n'ai jamais prise avec elle. L'ombre de son mari, sec et parcheminé, a toujours flotté comme le pressentiment d'un remords entre ses terribles désirs et mes courtes pensées de concupiscence. Ce pauvre homme, il est maigre à embrasser un bouc entre les deux cornes. Chapitre 10. Je croyais ne plus aimer ma petite Jeanne. Le bonheur berce l'amour et l'endort. Mais, comme elle me quittait certains matins par un gai soleil de mai, je la regardais partir et lui adressais de loin de nonchalants baisers. Elle se retournait, gracieuse et vive, et de son mouchoir fouettait gentiment l'air. Une sorte de commis de rayon, un goujat vêtu comme un lieu commun, un hideux clerc de quelque huissier louche, la regarda au passage, et avec le sans-façon d'un cuistre qui se croit tout permis, frappé d'une idée de séduction, il se mit à ajuster son col, à donner une inclinaison à son chapeau et à changer son itinéraire dans le but visible de marcher dans le sillon de beauté que laissait derrière elle ma charmante adorée. Au tournant de la rue, je ne vis plus rien. Par malheur, j'étais en robe de chambre, en pantoufles, au seau du lit. J'aurais voulu avoir des ailes pour rejoindre le faquin, le souffleter et lui tirer les oreilles, pour s'être permis de souiller du regard et de la presser ma pensée saisie. Et bien que le soupçon ne puisse s'imposer à mon esprit devant ce ver de terre suivant cette reine, je me suis longtemps demandé si je devais attribuer à l'amour ou au mépris des insolents médiocres le sentiment de rébellion et de sourde rage qui s'était emparé de mes sens. Ah, pensées infâmes qui germent trop souvent dans le cerveau surmené par une idée de possession absolue, chez un être qui se sent l'orgueil de son despotisme et le despotisme inflexible de son orgueil. Que ne peut-on royalement assassiner la créature qu'on est certain d'avoir possédée de l'épiderme aux fibrilles les plus tenues, du cœur et de la cervelle, de même qu'on peut briser au sortir d'une orgie la coupe de cristal où l'on a bu l'ivresse à long trait, mais sur laquelle aucun autre désormais ne pourra porter ses lèvres. Heureux ces souverains d'Orient, qui après une nuit de délices inoubliables, faisaient trancher la tête de leur plus douloureuse sultane, avec une cruauté langoureuse et poétique. Ils éprouvaient la philosophie de leur crime, car loin d'ouvrir la porte au remords, ils la fermaient aux désillusions. Il y a du satrape chez les hommes entiers. Chapitre 11. C'est tout un poème de tristesse dans mon cœur quand j'y songe, ce navrant billet qui disait: J'aurai le plus grand plaisir à te voir, si tu m'as aimé un instant, viens. Je suis chez Dubois, tu sais, Faubourg Saint-Denis. J'ai cru en y entrant y mourir d'ennui. Par bonheur, jusqu'à présent, les amis se sont montrés dévoués. Mais toi, je voudrais tant te sentir la main dans ma main. Si tu as un moment, viens, viens, je t'en serai si reconnaissante. Pauvre grande enfant, elle se nommait Florde. Oh, je l'avais entrevue au printemps, alors que, pour échapper aux cuissons parisiennes, j'étais allé à Ermenonville, en compagnie d'une petite déesse de Paphos, faire l'amour sous les grands arbres, près des temples mythologiques et des grottes voluptueuses peuplées du souvenir de Rousseau. En la voyant pour la première fois, dans l'échange seul de nos regards, nous avions pris possession l'un de l'autre avec cet instinct curieux et impossible à analyser de deux êtres qui ne se sont jamais vus et qui cependant se retrouvent. De ce jour, j'avais l'assurance qu'elle était à moi, sans fatuité. C'était mieux qu'un pressentiment, c'était une certitude. Son œil fixement me disait: Je suis ta chose. Et mon regard inexorable lui répondait: Mais je le sais et je le sens, tu m'appartiens. Chaque homme a son harem dispersé dans le monde, dit un moraliste. Celle-ci était plus sûrement ma sultane que la petite houri qui se pendait à mon bras et qui avait des allures copricantes dans l'herbe. L'une m'était réservée par le destin comme une jeune fille au minotaure du labyrinthe. L'autre, gentille et taillir, se prêtait à ma fantaisie. Elle se donnait un maître pour caprice, sans subir le fatalisme d'une passion. La première, dans moi, ne pouvait méconnaître l'amant, la seconde, plus légère, n'y voyait que l'amour. Pour la théorie des ardeurs amoureuses, celle-là était la flamme, celle-ci n'était que la fumée. À peine étais-je de retour à Paris, où j'avais réintégré mon insouciante compagne, que je revins à Ermenonville. Pendant près d'un mois, je la vis et ne lui parlais pas. Ce n'est pas là du sentimentalisme et de la crainte, c'était une jouissance particulière. Je planais sur elle comme l'épervier sur la colombe, et la pauvre petite tourterelle mettait sa tête sous son aile pour ne pas voir, mais aussi pour mieux se laisser prendre. Florde s'isolait dans son veuvage, bien qu'elle eût à peine 25 ans. Elle était mieux que jolie et plus que belle. Un poète eût décrit sa beauté en un volume. Pour moi, qui ne suis point poète, je constatais simplement que cette brune radieuse possédait au complet et au-delà les qualités essentielles de la perfection chez la femme, selon Brantôme. Une heure avant mon départ, je lui parlais. Ainsi, deux aimants, longtemps placés côte à côte, doivent se réunir. Elle ne dit mot à mes quelques paroles, mais le soir, le même wagon nous ramenait fiévreux, courbaturés par l'attente et les promesses de notre fougue, et cependant notre amour plaidait pour lui-même, sans que nous eussions besoin de parler de nos désirs. Nos cœurs battaient avec éloquence, mais nos lèvres étaient muettes. Lorsque les sens s'adressent à des sens qui répondent, les paroles sont craintives, on dorlote par la pensée les plaisirs que nourrit l'espérance. Ah, quel raffinement il y a dans la patience de la possession! Qualis non fuit illa, disait Pétrone. La pauvre mignonne se laissa consumer par l'ardeur de sa passion. Elle mourut en janvier après plus de 6 mois de délices surhumaines. Je voyageais dans la brume d'Angleterre lorsque ce navrant billet doux me parvint. Je suis chez Dubois, tu sais, Faubourg Saint-Denis. Et là, je ne l'ai point revue, et peut-être l'ai-je tuée, cette douce amoureuse. C'est tout un poème de tristesse dans mon cœur, quand j'y songe. Chapitre 12. Lorsque la grande comtesse conçut le ridicule projet de me marier, je me laissais faire. C'était le testament de son amour dont elle pensait ainsi légitimement la succession. Je fis mine d'accéder et poussai jusqu'à la présentation. Mais pendant le dîner, je lançai froidement dans le courant de la conversation d'irréfutables pensées contre le mariage qui, comme toutes les vérités profondes, causèrent la plus déplorable sensation parmi les convives engagés dans les liens de l'hyménée. Voici quelques-uns de ces aphorismes terribles et tranchants. Et là, le mémorandum d'un épicurien s'arrête. Une main inconnue a déchiré les pages manuscrites qui suivaient et ses quelques notes hâtives et décousues. La sottise peut tout lacérer en invoquant le code indigeste de la morale. Les vérités sociales doivent rester cachées dans le puits de la logique. Ici, le mémorandum devenait peut-être intéressant, mais l'éditeur persiste à mettre au jour ce carnet de fat et à le reproduire avec ses lacunes et ses errata. Ainsi soit-il.